France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, nous serons prêts, nous croyons à ce débat déclaration signé Édouard Philippe qui s'est voulu rassurant quant à l'organisation de la grande concertation nationale en réponse aux Gilets jaunes. Les informés se penchent ce soir sur le mode d'emploi, du moins ce qu'a bien voulu en dire le Premier ministre, qui ne s'est pas montré tendre à l'égard du retrait de Chantal Jouanneau, traité de péripéties. Dans cette émission, nous analyserons les ressorts d'une bataille de cagnottes qui n'a rien de cocasse et qui dessine en creux le portrait d'un pays divisé. La France est passée en un quart de siècle d'une fracture sociale à une fracture que l'on pourrait qualifier de sociétale sur les revenus, mais aussi la vision de la société française d'aujourd'hui. Élément d'exclusion majeure, le mal logement. France Info lui a consacré une journée spéciale à la radio, 2 mois après le drame survenu à Marseille pour la Fondation Abbé Pierre. Il y a obligation de résultat. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Audrey Goutard.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. À mes côtés également, bonsoir Saveria Rojek.
Bonsoir.
Journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat. Mon autre partenaire, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue, cofondateur et directeur d'Atlantico. Et invité ce soir également sur ce plateau, Razi Hamadi.
Bonsoir.
Bonsoir. Directeur général fondateur de l'agence News Stink Cities, elle est spécialisée dans le logement, l'habitat, l'urbanisme. Je rappelle que vous êtes un ancien député socialiste de Seine-Saint-Denis. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Ce pourrait être désormais une sorte de rituel. Plus d'une centaine de manifestants ont accueilli le chef de l'État à Créteil, dans le Val-de-Marne. Vous les entendez au cri de Macron démission, maintenu à distance. Les CRS ont dû user de gaz lacrymogène. Le président de la République, lui, était venu inaugurer la maison du handball. Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Bleus avant leur départ pour l'Allemagne. Premier match dans le cadre du mondial. Voilà, un échange avec les sportifs. Tout va bien, a demandé le chef de l'État. Vous ne devez pas lâcher, leur a-t-il dit. Vous êtes en train de devenir des exemples. Pour ceux qui sont derrière, je compte sur vous. Alors Audrey Goutard, Emmanuel Macron va-t-il désormais devoir s'exposer puisqu'il va commencer une sorte de nouvelle itinérance la semaine prochaine à des manifestations à chaque fois?
Logiquement, oui, on a bien compris. Depuis tous ces déplacements ces derniers mois se font de façon houleuse, avec une difficulté. Alors après, est-ce qu'il faut essayer de gérer ces débordements? Enfin, est-ce que ce sont des débordements après tout? Là, je voyais, ce sont des drapeaux de la CGT. Donc, vous voyez,
ils ont été maintenus à 900 mètres de distance.
Hein, voilà, exactement, à distance par les services de sécurité. Évidemment, Emmanuel Macron est une cible. Il symbolise ce qui révulse en ce moment une partie de la France, donc il sera une cible, évidemment, lorsqu'il ira voir les maires.
Oui, Jean-Sébastien Ferjou, ce démarrage, c'est pour mardi, je crois qu'il se rend à Grand-Bourg-Rould, c'est dans l'heure, puis il y aura le Lot 3 jours. Après, il a raison, le chef de l'État, d'essayer de retrouver le terrain.
Bien sûr qu'il a raison d'essayer, mais tout est dans le « essayer », justement. Il faudra aussi, parce que c'est ce qui s'est joué aussi derrière l'éviction de Chantal Jouanneau, les conditions dans lesquelles pourra être mené le débat. Et donc il faut aussi qu'il donne de véritables gages, parce que s'il y a des gens dans le pays qui entretiennent quand même encore des relations avec les Gilets jaunes ou avec ceux des gens qui se situent quasiment en dehors du système démocratique parce qu'ils n'ont absolument plus confiance dans les institutions ou dans les processus électifs normaux, bah, ce sont les maires. Ce sont les maires qui arrivent encore à parler bien souvent sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. Donc Emmanuel Macron aille à leur rencontre. Oui, ça me paraît une bonne initiative. Maintenant, tout reste dans la manière de le faire.
Saveria Rojek, est-ce que ces visites répétées de terrain d'Emmanuel Macron peuvent éventuellement un petit peu troubler le démarrage du grand débat? C'est mardi également. Hein.
Ce qui est très délicat à mon sens aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas ne pas sortir. Il faut qu'il montre physiquement que sa présidence continue. Et en même temps, on le voit bien, on l'a encore vu aujourd'hui, que le moindre déplacement génère forcément, en tout cas cristallise, même s'ils n'étaient pas très nombreux, hein, ils étaient une centaine, 150 personnes, oui. Mais néanmoins, il y a une cristallisation, donc un risque. Et le risque, il est présent notamment, on le voit aussi, c'est une des raisons, les questions de sécurité, pour lesquelles les cérémonies de vœux, excepté les vœux aux armées, ont été annulées. C'est ce que nous a expliqué l'entourage du président, c'est qu'il y avait aussi cette question de la sécurité. C'est pour ça que les vœux ont été annulés. Mais voilà, l'exercice est très délicat parce qu'il ne peut pas s'en passer, il ne peut pas ne pas sortir. Ou alors, il reste enfermé dans sa terre d'ivoire. Et la fracture va progresser.
Va s'aggraver. Razia m'a dit, vous avez été un ancien parlementaire, un ancien député de la République. Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont connu pareille situation, difficile pour Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, parfois certaines séquences de leur quinquennat, d'aller sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une forme de rejet accru à l'égard de la personne du président de la République?
En tout état de cause, il y a un constat. Les présidents de la République, depuis maintenant plusieurs mandats, sont plus rapidement rejetés et plus fortement...
Ça dure un an et demi maintenant. Hein.
Bon, oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Bien, il est institutionnel, il est démocratique, il est de tout ordre, lié au pacte social, républicain, le consentement à l'impôt. Bref, en tout cas, pour rester sur notre sujet, être concret, je crois qu'il y a... les problèmes structurels, mais il y a aussi des éléments de réglage, peut-être de communication, y compris dans l'exécutif. Pour vous donner deux exemples, vous vous rappelez de Jacqueline Mourot qui avait fait cette vidéo,
oui.
Et j'ai constaté, j'ai revérifié ça avec mes équipes cet après-midi, tout à fait.
Jaunes, hein, oui.
La secrétaire d'État à la transition énergétique lui répond. Elle double le nombre de vues sur YouTube. Vous avez Mounir Majoubi la semaine dernière, il y a 3-4 jours, la cagnotte, on va en parler tout à l'heure, du boxeur, elle est à 70 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la photo, la capture d'écran, et il dit c'est un scandale. Deux jours après, elle double.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a la nécessité, si le gouvernement veut dire fermeté, on retisse du lien, aussi de peut-être retrouver des codes qui soient un peu plus solennels de l'ensemble de l'équipe. Je dis pas faire profil bas, parce qu'on n'a pas à se cacher quand on incarne la République, mais peut-être être un peu plus sobre.
Ne pas alimenter peut-être la machine, c'est ce que vous dites ce soir. Allez, 20h10 sur France Info, on poursuit, on va évoquer le débat dans un instant. Tout de suite, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Les caisses d'allocation familiale ont déjà accepté 73 000 nouvelles demandes de Français cherchant à bénéficier de la prime d'activité. C'est 6 fois plus qu'au début de l'année dernière. L'élargissement du nombre de bénéficiaires de cette prime est l'une des mesures accordées par le gouvernement pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Cette crise des Gilets jaunes, elle sera au menu du grand débat national dont le coup d'envoi sera donné mardi prochain dans l'heure en présence du chef de l'État. Les modalités de cette consultation seront dévoilées lundi prochain, indique le Premier ministre. Il avait le mois dernier une nouvelle fois suscité la polémique. L'ancien collaborateur du président de la République, Alexandre Benalla, a rendu aujourd'hui les 2 passeports diplomatiques encore en sa possession. L'enquête pour savoir quel usage a-t-il pu en faire se poursuit. On connaît les nommés aux prochaines Victoires de la Musique le 8 février. Les rappeurs Big Flo et Oli, la sensation Eddy de Préto et Etienne Dao se disputeront le trophée d'artiste masculin de l'année. Chez les femmes, le titre de meilleur artiste se jouera entre Vanessa Paradis, Jeanne Hadid ou bien encore Chris.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà donc un premier coin de voile levé sur les contours du futur grand débat. Édouard Philippe s'est exprimé, vous le savez, en marge du séminaire gouvernemental. En début d'après-midi, ici aux informés, on va essayer de décrypter un petit peu les choses. Nous allons d'abord évoquer le cadre de ce grand débat.
Nous serons prêts. Nous croyons à ce débat. Nous pensons qu'il est indispensable. Les choses vont commencer très vite puisque un certain nombre d'instruments sont prêts. Les réunions d'initiatives locales pourront débuter dès le courant de la semaine prochaine. La plateforme numérique que nous mettrons à la disposition des Français sera prête. Le processus de tirage au sort d'une centaine de Français dans chaque région va évidemment demander un petit peu plus de temps. Mais là encore, ces instruments se mettront en place dans de bonnes conditions.
Jean-Sébastien Ferjou, les instruments vous paraissent suffisants ?
Non. Non, mais je crois l'avoir déjà exprimé ici même.
Ouais,
d'ailleurs,
je
doute de l'intérêt, non pas de la consultation en tant que telle, mais de cette méthode-là. Ça n'est pas du tout la même chose. Et on le sait très bien, quand on fait du marketing ou différentes enquêtes, il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Il faut leur demander éventuellement de participer à la construction d'une solution. Car bien souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il suffit de regarder les travaux de prix Nobel d'économie en économie comportementale ou de psychologie pour voir que les individus que nous sommes sont tous beaucoup moins rationnels que ce que que nous croyons. Donc demander aux gens ce qu'ils veulent, quand en plus on dit que de toute façon le résultat il est d'ores et déjà extrêmement cadré, et je trouve qu'il y a de ce point de vue-là une communication très maladroite du gouvernement, parce qu'à force d'insister sur les sujets qui ne seront pas dedans, alors même que personne ne les réclame particulièrement, cas pas les gilets jaunes, que ce soit l'IVG, la peine de mort.
Ça crée un point de friction. Et
Ça montre que de toute façon, c'est un débat qui est plus là pour la galerie que pour réellement créer quelque chose. Donc je pense qu'il existe d'autres outils, comme des conférences citoyennes, des moyens justement de construire des choses. Malheureusement, ça n'est pas la voie qui a été choisie.
Xavier Roger, vous êtes aussi sévère que votre voisin Jean-Sébastien Ferjou.
Aussi sévère, je ne sais pas, mais vous dites on en sait plus désormais après ce séminaire gouvernemental sur l'organisation du grand débat. Non.
Écoutez, il parle de réunions, je le cite, d'initiatives locales, de plateformes numériques, de conférences citoyennes. On voit à peu près à quoi ça peut ou trou se ressembler dans les mois qui viennent.
On a senti Édouard Philippe très gêné tout à l'heure de ne pas pouvoir en dire plus, de ne pas pouvoir surtout donner un nom, notamment bien sûr pour le remplaçant de Chantal Jouanneau, de ne pas pouvoir donner plus sur l'organisation. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il y a des kits qui ont été préparés par la Commission nationale du débat. Les kits ont été préparés, on les a appelés ce matin. La Commission, elle confirme que les kits sont prêts. En revanche, le gouvernement, lui, ne confirme pas que ce seront bien les kits qui seront utilisés. Voilà ce qu'on sait.
André Gouttard, vous pensez qu'on ne sait rien ?
Non, moi, je pense qu'on sait tout. Un sondage vient encore de sortir. Qui dit quoi? Qui dit que les Français veulent qu'on parle de leur pouvoir d'achat? Ils veulent qu'on parle des taxes? Ils veulent qu'on parle des impôts? Ça fait des mois qu'ils expliquent ça au gouvernement. On les entend, les Français. On entend leur désirata. Je suis pas d'accord avec vous, Jean-Sébastien. Quand vous dites qu'il ne faut pas laisser le choix aux gens. Les gens ont du bon sens. Là, ce qu'ils vont exprimer, vous allez voir, c'est effectivement leurs souhaits. Des souhaits qui sont déjà exprimés.
Attends qu'on va y aller dîner tous les deux. Ça sera pas la même chose si je vous dis où est-ce que tu veux aller dîner, ou alors je suis là, t'es à tel autre endroit. À quel endroit on se retrouve? C'est pas la même posture.
Quelque chose sur ce plateau ce soir.
Non, mais c'est pas du tout la même posture d'essayer de trouver une solution ensemble que de demander aux gens.
Là, ce n'est pas le problème. Là, vous confondez forme et fond. Excusez-moi. Il y a la forme. Sur la forme, effectivement, il y a une consultation. Sur le fond, les gens ont déjà exprimé ce qu'ils souhaitaient et ils vont le réexprimer. Et c'est cathartique de pouvoir laisser aux gens la possibilité de dialoguer et de discuter.
Razi Hamadi, vous êtes d'accord avec ça, vous?
Non, c'est que sur la forme.
Vous auriez fait la même chose.
Vous n'êtes pas d'accord,
non. Non, non, parce que sur la forme, déjà, on a des instituts d'urbanisme. On a une réflexion qui vient de l'Institut d'études politiques de Grenoble depuis 50 ans sur comment on mène une concertation. Il y a de la méthode, il y a une documentation universitaire, des recherches. Il y a des on dit pas comme ça, on va faire un débat et on exclut les sujets. C'est vrai que c'est la dernière chose à faire. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, maintenant, je crois que les choses sont assez claires. Voilà. Il valait peut-être mieux, et là je suis d'accord avec André Gouttard, sur le sujet précis, c'est qu'aujourd'hui on a un problème de contrat social et de consensus, de consentement sur l'impôt, ce qu'on en tire, ce qu'on contribue en fonction qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Je paye tant, mais qu'est-ce que j'ai comme service? L'inégalité entre les territoires. Il y a un sujet là-dessus. Pourquoi? Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit, on agite le chiffon rouge, on dit attention, hein, personne ne le demande, mais on va pas débattre du mariage pour tous. Et j'ai rien demandé. Non, on ne débattra pas du mariage pour tous, je vous le dis. Et puis, c'est scandaleux, il n'y aura pas de débat du mariage pour tous.
Ça, c'est une erreur d'avoir annoncé cette couleur-là.
Je pense aussi que ce qui est important, c'est l'incarnation de ce débat, et notamment, bien sûr, le remplacement de Chantal Jeannot, que c'est important qu'il soit incarné de façon indépendante. Oui, non.
Je pense que ça sera plutôt un collectif.
On a parlé. Alors, il y a des noms qui circulent. Alain Juppé a opposé ce matin une fin de non-recevoir. Il y a une des solutions les plus simples pour le gouvernement, ça serait le défenseur des droits, Jacques Toubon. Ça serait assez simple. Et il y a effectivement ce que vous dites, cette incarnation collective que sont les élus, que sont les maires. Et effectivement, ça pourrait être une organisation collective, notamment l'AMF, l'Association des maires de France, qui pourrait recueillir ces doléances.
Puisque Saveria, vous évoquez le cas de Madame Jouanneau, voici ce qu'en a dit aujourd'hui Édouard Philippe. Ce n'était pas très très aimable. Écoutez bien.
J'ai pris acte de la démission de Madame Jouanneau, que je regrette. Je la regrette d'abord parce qu'elle intervient tard dans le processus et que, évidemment, c'est une complexité supplémentaire d'organisation de ce débat. Elle n'est évidemment pas rédhibitoire, mais elle crée une émotion dont j'ai vu qu'elle pouvait éventuellement vous saisir. Et puis je la regrette aussi parce que dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est vrai que ceux qui servent l'État, ceux qui aiment leur pays, sont plutôt astreints à une forme de mobilisation plutôt qu'à une forme d'éloignement. Donc il est vrai que je la regrette. Cela dit, je voudrais dire que ça n'est au fond qu'une péripétie. Ce qui compte, ce ne sont pas les personnes. Ce qui compte, c'est ce débat.
Alors, c'est le départ qui est une péripétie, si j'ai bien compris, Audrey Goutard.
Finalement, on les sent agacés. Hein.
Ils sont agacés. Finalement, apparemment, elle les aurait pris de court. C'est ce qui semble transpirer de ça survient à la fin de son intervention aujourd'hui.
Hein. Ce qui en ressort, en tout cas, de ce qu'ils disent. Ils ont l'air surpris. Visiblement, ils sont déçus. Et il doit l'avoir un peu mauvaise, si vous voulez, de voir que, effectivement, la patronne de ce qui pouvait être ce débat s'en va avant même. Alors, c'est vrai que je me mets à la place des gens et même des Français. Lorsque Madame Jeannot, j'ai rien contre Madame Jeannot, mais qui gagne 15 000 euros par mois, on l'a bien compris, son boulot, c'est d'organiser ce genre de choses.
Qu'elle ne quitte pas d'ailleurs. Elle renonce juste à l'organisation du débat.
Voilà. Elle renonce à ce pourquoi elle serait payée 15 000 euros par mois.
La question du montant de son salaire dans les mains du gouvernement.
Dans les mains du gouvernement. Je comprends que le Premier ministre l'est mauvaise.
Razia m'a dit, c'est un.
Si vous nous aviez invité, en disant le sujet, c'est la rétribution de Chantal Jeannot. Je vous aurais répondu, c'est bien normal pour un poste aussi important, une autorité qui doit être indépendante et qui, quelquefois, peut amener le dirigeant à être très exposé, prendre des coups, etc.
Il vous choque ce montant ou pas, vous?
Non. Non, on est dans un étiage, on parle de brut, c'est une autorité indépendante, c'est censé être 7 jours sur 7 en théorie.
Mais c'est quand même une commission d'assumer les responsabilités. Et dont personne n'avait jamais entendu parler. Donc ça fait quand même partie.
Si. Je vous donne deux exemples. Hein. Par exemple, un grand projet d'aménagement à Nantes, Yellow Park, c'est le CNDP qui dit les conditions de concertation peuvent être améliorées. C'est le même cas, par exemple, aujourd'hui avec Triangle de Gonesse, c'est le sujet qu'on connaît bien avec Auchan.
Une question.
Jacques Mézard, l'ancien ministre du logement, sénateur, avait produit un rapport qui est très intéressant, qui date de 2015, notamment sur ces autorités administratives indépendantes, qui étaient au nombre à l'époque de 46.
Et voilà. Vous voulez dire tous les comités Théodule?
Il y a que des comités Théodule, puisqu'il y a la différence entre l'autorité des marchés financiers, le CSA ou des choses qui sont vraiment nécessaires pour le fonctionnement d'un état de droit. Et il est normal qu'il y ait des autorités indépendante, c'est-à-dire à la fois administrative, au sens où c'est pas la société qui s'auto-organise, indépendante pour qu'on ne soupçonne pas le gouvernement de manipuler les choses à son intérêt. Maintenant, à côté de ces comités ou de ces autorités qui ont une vraie utilité, il y a aussi tout un tas de comités Théodule. Elle aurait pu être intéressante, mais cela dit, elle avait produit un rapport qui disait avant l'été sur la fiscalité écologique que ça allait produire la situation que ça a produit. Donc la preuve qu'on paye quand même très cher les gens pour ne pas les écouter.
L'efficacité, le problème à la fois des autorités indépendantes, c'est qu'elles sont indépendantes. C'est-à-dire qu'on les crée, elles sont indépendantes pour donner
on en crée
la
beaucoup.
Bonne foi.
Regardez quand Emmanuel Macron a annoncé l'autorité sur la transition écologique au mois d'octobre, alors qu'elle existait déjà.
À l'époque du rapport Mézard, il y en avait 46. Aujourd'hui, il y en a plus qu'une vingtaine.
En tous les cas, le sujet vous inspire.
On les a appelés autrement. Le coût reste le même.
20h et 20 minutes sur France Info. On marque une pause pour le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Deux militaires portés disparus ce soir dans le Jura. Ils étaient à bord d'un Mirage 2000 dont on a retrouvé des débris sur les hauteurs de Mignot-Villars. L'avion militaire avait disparu des radars peu avant midi après son décollage de la base aérienne de Nancy-Auchet. Au procès du cardinal Barbarin à Lyon, la procureure de la République ne requiert aucune peine de prison contre l'homme d'église ainsi que pour les autres 5 autres prévenus. Ils comparaissent depuis lundi dans une affaire d'agression sexuelle sur mineurs, des faits commis par le père Prénat sur des scouts entre 1986 et 1990. Accueil houleux pour le président de la République venu inaugurer la nouvelle maison du handball à Créteil. Environ 150 manifestants, dont des gilets jaunes, des enseignants en colère, l'ont accueilli au cri de Macron démission. Quelques heurts ont éclaté avec les CRS, ils ont fait usage de gaz lacrymogène. Le chef de l'État attendu dans l'heure mardi prochain, c'est dans la commune de Grand-Bourte-Rould que sera donné le coup d'envoi du grand débat national. En raison de cette grande consultation pour sortir de la crise des gilets jaunes, l'examen à l'Assemblée de plusieurs réformes, dont celle des institutions, est reporté.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un instant, un message d'un auditeur qui, semble-t-il, est un marcheur. Il nous dit « Razi Hamadi a raison, je le lis, quand il demande plus de solennité de la part des responsables de la République En Marche et du gouvernement. » Vous voyez, vous avez fait un heureux en déclarant ceci tout à l'heure. Nous revenons sur Savaïa Rojec.
C'est intéressant, vendredi, Mounir Majoubi va se rendre à Fréjus sur un rond-point pour passer la journée avec des gilets jaunes. Alors, C'est pour aller dans votre sens. Fréjus, il faut le rappeler, c'est une ville dont le maire est David Rachline, très proche de Marine Le Pen.
Ville Rassemblement National.
Rassemblement National, voilà. Donc, un membre du gouvernement va passer la journée auprès des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ?
Moi, ce que je vous dis, c'est que je connais un peu la situation dans le Var. J'en suis originaire. Mmh. C'est un des endroits qui est le plus mobilisé quand même sur le territoire. On l'a vu sur les péages d'autoroute. Donc, je ne vois pas l'effet. Le territoire, en plus, c'est chercher la confrontation. Parce que je pense que ça ne se fera pas, d'ailleurs.
Non, parce que Mounir Majoubi a beaucoup parlé avec les Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'échanges. Et précisément, lui ou Marlène Schiappa ont eu quand même l'instinct politique de savoir. Parce que d'autres membres du gouvernement ont dit, alors en privé, mais bon, ça a été rapporté comme souvent, que parler avec des Gilets jaunes, c'était se dégrader.
Je suis d'accord avec vous.
Mais on sent qu'il y a une fracture dans le gouvernement.
Moi, je préfère de loin ceux qui font l'effort. Et Mounir Majoubi l'a véritablement fait, qui font l'effort. Après, je suis d'accord avec vous que c'est une opération qui est compliquée et certainement encore plus dans le Var, mais au moins, ça n'est plus traiter les Gilets jaunes avec l'espèce de mépris qui caractérise quand même un certain nombre de gens.
Je suis d'accord avec vous, je suis pleinement d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre expliquer que les gens qui ne sont pas contents, ils fument des clopes, ils roulent au diesel, et le fait d'aller passer une journée sur un rond-point, qui n'apportera rien en plus dans les faits. C'est-à-dire, on va passer une journée sur un rond-point, on va partager.
Mais à un moment, il faut bien essayer de refaire société, il faut bien essayer quand même d'essayer de revivre ensemble. Quand on voit la journée d'hier, la cagnotte du boxeur, et dans le même temps, un ancien ministre qui dit, il faudrait, même s'il est revenu sur ses propos depuis, mais quand même, ça a été entendu comme ça, il faut que la police tire sur les Gilets jaunes. On est dans une atmosphère de guerre civile. Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient capables de... j'ai envie de vous parler de Nelson Mandela, quasiment. Non, mais si Nelson Mandela, lui, arrivait à voir une lueur d'humanité chez les bourreaux qui le maintenaient en prison, qui considéraient qu'il était un sous-homme à cause de la couleur de sa peau, ça serait bien que certains membres du gouvernement soient capables de voir dans les Gilets jaunes une lueur d'humanité. Alors... il devrait pouvoir y arriver. Malheureusement, quand on en entend certains, Gérald Darmanin ou Benjamin Griveaux, pas l'impression que ce soit le cas. Donc moi, je préfère de loin sur ce terrain-là, Madame Schiappa ou Mounir Majoubi, qui au moins font l'effort.
Mais le simple fait qu'il y ait deux orientations et deux attitudes pour l'exécutif, c'est un sujet et déjà
exactement.
Un problème.
Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une ligne de facture au sein du gouvernement.
Échange sur l'attitude à avoir entre Jean-Sébastien Ferjou et Razi Hammadi. Alors, ce grand débat peut-il infléchir le cours des événements? L'opposition, évidemment, est plutôt vent debout. On entend successivement Éric Woerth pour les Républicains, Marine Le Pen pour le Rassemblement National et Éric Coquerel pour la France Insoumise. Puis nous commentons.
Aujourd'hui, on voit que le gouvernement, il est un peu perdu. Il a inventé quelque chose qui, aujourd'hui, peut-être le dépasse.
On vient nous dire, on va organiser un débat, mais ça ne sert strictement à rien, puisqu'on n'en tiendra pas du tout compte.
Moi, je pense que ce grand débat national est inutile. Il a juste été mis là en espérant que ça soit un grand enterrement du monde gilet jaune. Le gouvernement voit que c'est pas le cas.
Razi Hammadi, vous auriez été député là aujourd'hui. On vous aurait tendu le micro. Qu'est-ce que vous auriez dit à la question « à quoi sert ce grand débat ?»
Ben, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est bien d'avoir un sujet précis quand même, à une problématique particulière. Aujourd'hui, on sait très bien les Gilets jaunes, on peut discuter de plein de choses. Hein, mais en tout cas, s'il y a une chose sur laquelle on a quand même un consensus, c'est on paye des impôts, quel impôt, pourquoi, quelle taxe, et surtout, quel... Donc moi, j'aurais dit, il faut y participer, porter ce sujet-là. Quand mais je pense que si j'avais été parlementaire, j'aurais aussi pensé un petit peu, comme c'est le cas aujourd'hui encore, un peu à mon pays aussi. Parce que là, alors, j'ai l'impression qu'on a une opposition.
Attendez, Audrey Goutard, pour répondre à ce que dit Razi Hammadi, l'opposition s'oppose, ça c'est un classique. Est-ce que son absence n'est peut-être pas une faute finalement? Est-ce que ça peut porter préjudice au débat? Est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt justement à intervenir, à être présente d'une façon ou d'une autre, ou le valider de façon à participer au débat collectif?
Les Républicains ont dit qu'ils y participent.
Les Républicains ont dit qu'ils y participent, c'est vrai. Tout ce qui peut permettre, nous on l'a vu dans nos reportages sur les carrefours, etc., il est clair que les gens ont quelque chose à exprimer. Les Gilets jaunes ont des choses à dire, ont des revendications qui sont réelles. Hein, c'est pas juste du blabla, c'est des vraies revendications. Et ils ont l'impression de faire partie de cette France qui disparaît et qu'on n'écoute plus. À partir de ce moment-là, peut-être que la méthode est maladroite, peut-être que le cadre n'est pas comme ci ou pas comme ça. Le fait est, c'est qu'il y a des interlocuteurs, ce sont les maires, les élus. Les élus ont l'habitude de s'adresser aux gens, de faire des réunions de quartier. C'est le boulot des élus. Ces élus-là vont certainement essayer de canaliser ce besoin de s'exprimer, de sortir les Gilets jaunes de leur carrefour pour les amener effectivement dans les salles polyvalentes leur permettre de s'exprimer. Ce n'est pas complètement absurde non plus.
Dernier mot, Savaria Roget, qu'on a très peu de temps.
Oui, allez-y. Très rapidement, je trouve aussi que la grande inconnue, il n'y a pas eu un mot là-dessus du Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire, de quelle façon on va exploiter ce qui va sortir.
Il a quand même dit que certaines réformes ont été mises en suspens.
Alors,
certaines réformes sont mises en suspens. en suspens parce que
oui, enfin, c'est pas l'exploitation que... de ce qui va ressortir du débat.
Il faut d'abord qu'il y ait un débat pour
alors,
savoir
on a
ce
entendu,
qui en
on
ressort.
Parle, et, voilà, oui. On parle peut-être d'un référendum avec des questions à choix multiples qui seraient organisées en même temps que les élections européennes, mais là encore, c'est très flou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'exécutif lui-même ne sait pas. Ne sait pas de quelle façon ils vont exploiter les résultats du grand débat.
Tous les cas, beaucoup de questions sont posées. Il va falloir peut-être attendre ce que va dire le chef de l'État dans sa fameuse lettre qui est attendue en début de semaine prochaine. Allez, on se retrouve dans un instant après la météo, le rappel de l'info. Nous évoquerons notamment le mal logement en France.
Vous cherchez un emploi ? Vous voulez en changer ? Vous souhaitez créer votre entreprise ? Conseils utiles, nouvelles compétences ? Venez échanger avec les acteurs du monde du travail de votre région au cours d'une soirée exceptionnelle de France Info à Marseille. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec la Provence. Jeudi 17 janvier à 19h à la Catch Business School, domaine de Lumini à Marseille. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Manpower, trouvez votre emploi en CDI. Rendez-vous sur manpower.fr. Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises.
Demain soir sur Arte. Heureusement, vous n'êtes ni Premier ministre italien, ni prêtre délinquant, ni scientifique en dépression. Sinon, il vous faudrait garder secret un des plus grands miracles de l'histoire. Un miracle qui sèmerait le doute. Un miracle qui bouleverserait tout. À quoi peut-on se fier après un miracle ? Il Miracolo, la nouvelle série événement. Demain soir sur Arte et déjà en intégralité sur arte.tv.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés partout en France.
Et les prévisions de Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, des averses de neige se feront encore remarquer à très basse altitude sur le relief du centre-est et du nord-est, ainsi que sur les Pyrénées. Le pourtour méditerranéen profitera d'une belle journée ensoleillée, mais avec toujours énormément de vent. Les rafales dépassant encore 80 à 100 km par heure pour le Mistral et la Tramontane. De belles éclaircies vont se dessiner en matinée entre l'Île-de-France et le Poitou-Charentes. Puis l'après-midi, ces larges périodes ensoleillées s'étendront du centre-Val-de-Loire à la Vendée et au nord-Aquitaine. Sur le reste du pays, le ciel sera chargé. Les nuages vont même s'accumuler par le nord de la Seine, débordant vers la Normandie, le nord de la Bretagne et la Champagne. Les températures seront froides cette nuit, descendant fréquemment sous la barre du 0 degré. L'après-midi, les maximales seront aussi sous les valeurs de saison, avec 1 à 9 degrés en général, et jusqu'à 12 à 13 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Des débris d'un Mirage 2000 retrouvés sur les hauteurs de Mignot-Villard dans le Jura. L'avion avait décollé de la base aérienne de Nancy ce matin avec deux militaires à bord avant de disparaître des radars vers 11h. Les secours sont sur place. Au ministère des Armées pour France Info, Franck Cognard.
Nous avons quelques débris, un morceau de tissu de parachute, mais ni épave, ni corps, reconnaît le colonel Duvivier, le porte-parole de l'armée de l'air. Selon toute probabilité, l'avion s'est disloqué. La zone de dispersion et de recherche est vaste autour de cette commune de Mignot-Villard où une explosion a été entendue en fin de matinée par plusieurs témoins. Le Mirage effectuait en solo une mission d'entraînement à basse altitude, aux instruments, sans visibilité au sol. Aucune précision n'a été donnée sur l'équipage, qui est composé d'un pilote et d'un navigateur, mais aucun des deux n'a pu déclencher son siège éjectable, ce qui aurait activé une alerte automatique. Or, elle n'a pas été entendue. D'ailleurs, précise encore le colonel Duvivier, aucun signal n'a été émis par l'avion ni par les pilotes eux-mêmes. Cette absence d'éléments complique évidemment les recherches qui vont se poursuivre cette nuit avec des moyens adaptés.
Franck Cognard, Christophe Détinger, jugé en comparution immédiate ce soir pour violence volontaire contre les forces de l'ordre. L'ex-boxeur professionnel de 37 ans avait frappé deux gendarmes à Paris. C'était lors de la 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes samedi dernier. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Alexandre Benalla a lui restitué ses passeports diplomatiques aux enquêteurs chargés des investigations sur leur utilisation controversée. C'est l'avocat de l'ex-collaborateur de l'Élysée qui les a remis à la police aujourd'hui. Il n'a eu de cesse de dénoncer toute intervention en faveur du système bancaire. Et pourtant, le gouvernement populiste italien n'exclut désormais pas une nationalisation de la banque en difficulté Carige, même si les administrateurs ne l'estiment pas pour l'instant nécessaire. Dans l'actualité également, la visite surprise de Mike Pompeo à Bagdad en Irak, le secrétaire d'État américain qui vient assurer aux alliés de Washington son soutien dans la lutte contre les djihadistes de Daesh, malgré l'annonce du retrait américain de Syrie. Fréquentation record pour Air France KLM. Le groupe annonce avoir transporté pour la première fois plus de 100 millions de passagers l'an dernier. Mais l'impact négatif du climat social en France sur ses revenus pèse sur le titre en bourse. KLM a une nouvelle fois encore fait mieux qu'Air France avec sa filiale Transavia notamment. Et puis le défenseur français de Stuttgart, Benjamin Pavard, champion du monde, a signé un contrat de 5 ans avec le Bayern Munich et il rejoindra le club bavarois dès le 1er juillet prochain. Les informés, ça continue.
France Info, les informés, Jean-François Aquilé.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos experts, Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Saveria Rojek, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur d'Atlantico, avec Razi Hamadi, directeur général fondateur de l'agence News Tank Cities, et je rappelle, ancien député socialiste de Seine-Saint-Denis. Alors nous y avons consacré une journée spéciale sur France Info à la radio. Le mal-logement en France est aujourd'hui une priorité absolue. Le constat, tout d'abord, nous sommes 2 mois après l'effondrement d'immeubles qui a fait 8 morts dans le centre-ville de Marseille. La Fondation Abbé Pierre, qui s'est portée partie civile dans cette affaire, annonce que 600 000 logements seraient potentiellement indignes, soit environ 1 million de personnes exposées à des risques pour leur santé et leur sécurité. Pour Julien de Normandie, il faut mettre le paquet. Le ministre de la Ville et du Logement était l'invité de France Info ce matin.
Il faut mettre le paquet pour lutter contre ce fléau. J'ai fait de la lutte contre l'insalubrité une priorité d'action au premier jour. Début du mois d'octobre, j'ai annoncé un grand plan de lutte contre l'insalubrité. C'est au moins 18 milliards d'euros que nous mettons sur la table avec nos partenaires. 10 milliards d'euros pour la rénovation urbaine, 5 milliards d'euros pour lutter contre l'insalubrité et ces logements dépéris dans des villes dites moyennes, c'est-à-dire des sous-préfectures. Et puis c'est 3 milliards d'euros pour lutter contre les copropriétés très dégradées. Et vous savez, ce plan, je l'ai annoncé à Marseille, 1 mois avant le drame.
Alors Razia m'a dit, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous dirigez une agence qui est spécialisée dans le logement, l'habitat, l'urbanisme et pas seulement. Et vous avez été aussi un élu de la Seine-Saint-Denis, qui est un département qui est particulièrement touché par le phénomène du mal-logement. Ces 18 milliards annoncés par ce ministre de la Ville vont suffire?
Écoutez, tout d'abord, moi je voudrais féliciter réellement, et c'est sans flagornerie, les équipes de France Info, parce que je vous ai écouté toute la journée. Et vraiment, la façon dont vous avez abordé le sujet me semblait on était dans le domaine du sensible, parce qu'il y avait des témoignages de gens qui vivaient le mal logement dans des 7, 8, 9 mètres carrés avec des éviers bréchés, des bras ouverts, des 400, 500, 600, 700 euros par mois. Et puis aussi la parole des décideurs publics, des animateurs du débat public qui font des propositions. Vous parliez de la Seine-Saint-Denis, le président du Conseil Général précédemment, Stéphane Troussel, mais aussi on était avec lui cet après-midi, parce qu'il y avait une conférence de presse de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement avec Christophe Robert. Bon. Les 18 milliards, on va pas faire de débat là-dessus. Quand on rentre dans le détail, il y a ce qui va réellement aux marchands de à la lutte contre les marchands de sommeil, l'insalubrité, mais il y a aussi les crédits de l'ANA dedans, qui sont d'ailleurs en augmentation. Je pense que c'est bien aussi dans notre pays de dire quand il y a des choses qui vont bien. C'est-à-dire que les crédits d'intervention de l'agence qui s'occupe de ces sujets-là augmentent de 10%. On est à près de 870 millions d'euros. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Ça, c'est, je crois, un des mâles français. C'est-à-dire qu'on a tout sur la table. Il y a les moyens financiers. On a les juridictions. On a la dernière loi Elan et Julien de Normandie
Vous dites qu'il y a tous les outils sont disponibles.
Il y a tout.
Et Julien les financements.
Julien de Normandie a d'ailleurs rappelé un point important. Il a dit qu'il avait annoncé des choses à Marseille. Vous savez que par exemple, grâce à la loi Elan, aujourd'hui un marchand de sommeil, on va considérer qu'il a loué pendant 2 ans un bien divisé en 10 parcelles de 5 mètres. Eh ben il a gagné temps. Ben c'est sur ça qu'on va essayer de prendre de l'argent.
Qu'est-ce qui coince?
Ce qui coince, c'est deux choses. La première, c'est la justice.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1000 décisions en Île-de-France pour envoyer des gars en prison ou leur faire payer une amende ou les rendre impossibles ou incapables d'avoir quelconque investissement que ce soit dans l'immobilier pendant 10 ans. Aujourd'hui, sur 1000 décisions de justice prises, il y a 50 décisions qui sont confirmées et appliquées. Oui, oui. Deuxième chose, c'est l'éparpillement, encore un mal français, de la décision. Par exemple, c'est le préfet par l'agence régionale de santé qui dit « c'est insalubre ». Et ensuite, vous avez la ville qui dit « attention, il y a péril ». C'est pas la même chose. Et ça n'a pas les mêmes
trop d'intervenants.
Moi, je dis il faudrait une agence, une seule. Oui. On met le paquet, ça veut dire on concentre les moyens, on a une autorité administrative. Si on considère, et je terminerai par là, que l'habitat insalubre, les marchands de sommeil, c'est aussi grave que la drogue, eh ben on demande pas au maire de gérer la drogue.
André Goutard, la justice ne va pas assez vite.
Il y a la justice. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Razi Hamadi. Ouais. La justice ne va pas assez vite, ça c'est une évidence. On le voit à chaque fois sur les marchands de sommeil, etc. Et puis, on est sur le problème du mal logement ou des gens qui n'ont pas de logement. Il faut savoir aussi que si l'État, effectivement, a des outils, met de l'argent, etc., les villes ne jouent pas le jeu. Aussi. Quand vous voyez qu'en Île-de-France, vous avez 7 millions de mètres carrés... 7, pardon, je vais donner... Oui, 7 millions de bureaux, excusez-moi, c'est le chiffre
vous
est tellement
prie,
énorme.
Vous en prie.
En Île-de-France, 7 millions de bureaux vides, soit l'équivalent de 100 000 logements de 70 mètres carrés. Des bureaux vides.
Vous voulez dire qu'on pourrait transformer cela d'un coup de baguette magique et créer du logement?
Non, mais c'est que les villes ne veulent pas avoir de pauvres. Les villes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que les villes ne veulent pas avoir de quartiers populaires. Et effectivement, c'est plus simple de faire des bureaux quittes à ce qu'ils soient vides.
Les villes en question.
Et là, on en revient en fait à la loi.
Parce que c'est de l'accompagnement, effectivement. Mais en même temps, vous avez 1 million de gens mal logés. Donc c'est des choix politiques. Et la Fondation Abbé Pierre a raison de le dire.
Saverio Rejec.
Moi, je serais beaucoup plus critique que vous sur cette loi Elan, qui a été votée, qui est donc la réponse, une des réponses du gouvernement à la crise du mal logement en France. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de spécialistes de la question ont dénoncé justement une financiarisation du logement social. La loi, elle encourage, elle met un objectif de 40 000 ventes de logements vendus par an, de logements sociaux vendus par an. Et elle fait le pari qu'on va construire plus, en fait. Est-ce que ça va marcher?
Oui, mais...
Voilà. Moi, je suis pas certaine. Et par ailleurs, juste pour terminer sur ce que disait Audrey, autre chose qui a été votée dans cette loi Elan, la loi Elan, elle touche à la loi SRU. La loi SRU, c'est le totem qui introduit, qui force justement les communes à construire du logement social sur leur territoire. La loi Elan, elle repousse l'objectif, par exemple, de 25%, je termine, de logements sociaux en 2025, elle le repousse à 2031. Voilà, ce sont des reculs sur cette loi SRU. Donc je suis beaucoup plus critique que vous sur la loi Elan.
Sur ce point, Razi Hamadi, et Jean-Sébastien Ferjou aura la
parole
après.
L'idée, c'est qu'il faut rester encore très précis. Nous, on l'a suivi avec les équipes de Newstank, on est allé voir du début du processus, que ce soit les avocats, les usagers, les associations, mais y compris les juridictions. Il faut aussi dire quelque chose et que nos auditeurs, ils doivent l'entendre. C'est que résorber l'habitat indigne, c'est juste une des jambes qui permet d'aller vers le combat en frontal. Parce que lorsque vous réparez, lorsque vous réhabilitez un logement, on en a plus qui se dégrade. Donc, il faut stopper le flux qui nourrit la dégradation. Donc, les permis de construire, pourquoi c'est optionnel? Il faut les rendre, les permis de louer, il faut les rendre obligatoires. On arrête la constitution du stock. Et sur la résorption, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que on peut pas laisser les collectivités seules, mais les collectivités doivent aussi avoir le courage et l'audace financière de dire, on prend, on réhabilite, on gagne de l'argent et c'est ce qui se passe, sauf qu'à la fin, en général, ils assument une grande partie de l'effort financier, mais c'est rentable. En tout cas, sur les zones denses, c'est rentable de préempter, d'exproprier, de réhabiliter. C'est faisable, ça se fait. Alors, s'ils n'arrivent pas à le faire, il faut les outils. Alors, la métropole du Grand Paris a fait un plan que je trouve très pertinent, complet, et je vous engage à le consulter.
20h40, presque 41 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Le grand débat national J-6, son coup d'envoi sera donné mardi prochain dans l'heure en présence du président de la République. Ce ne sera pas un grand déballage, prévient le porte-parole du gouvernement. Il n'y sera pas question de remettre en cause l'IVG, la fin de la peine de mort ou bien encore le mariage pour tous. L'ancien boxeur Christophe Détinger face à la justice ce soir pour une audience en comparution immédiate. Il peut, s'il le souhaite, demander le report de son procès, le temps de préparer sa défense. Il est soupçonné d'avoir frappé deux gendarmes samedi dernier. C'était en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Donald Trump menace aujourd'hui aujourd'hui de décréter l'état d'urgence aux États-Unis. Une partie de l'administration fédérale est à l'arrêt depuis le 22 décembre, faute d'accord avec les démocrates sur le financement d'un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. Les rappeurs français en force aux prochaines victoires de la musique. Orelsan, Damso et Eddy De Pretto sont nommés trois fois. Chez les femmes, Jeanne Aded, Chris et Vanessa Paradis se disputeront le titre de meilleur artiste de l'année. Qui l'emportera ? Réponse le 8 février depuis la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jean-Sébastien Ferjou, quelques mots encore sur ce problème du mal logement. Nous sommes en pleine crise des gilets jaunes depuis un mois et demi. Voilà un sujet éminemment qui pourrait être abordé dans ce grand débat qui se dessine.
Mais bien sûr,
sujet fondamental, sujet majeur.
La question du logement, peut-être plus encore que celle du pouvoir d'achat, est essentielle parce que le logement, non mais tous les jours vous y êtes confrontés. Alors il y a ce qu'on appelle vraiment le mal logement en tant que tel sur l'insalubrité, mais c'est un problème qui est plus large que ça. Il y a un problème du logement sans être nécessairement dans l'insalubrité dans les grandes métropoles en tout cas, parce que le matin si vous mettez 2 heures pour rejoindre votre lieu de travail parce que c'est trop cher d'habiter à côté de là où vous travaillez, ou que le soir vous êtes obligé de déplier un canapé pour dormir dessus parce qu'il manque une pièce chez vous, c'est quand même ce à quoi vous êtes confronté tous les jours, et effectivement politiquement on ne le traite pas assez. Maintenant, je trouve, il y a les mesures qui ont été évoquées, je suis moins expert dans le détail sur cette question du logement insalubre, donc je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain-là. Je constate juste que les choix type la loi SRU, de contraindre à une forme de mixité sociale, ça ne marche pas. De toute façon, on peut considérer que c'est un objectif louable en soi, ça ne marche pas. Donc je crois, moi, à la liberté sur le marché du logement. Regardez aux États-Unis, si vous comparez par exemple des villes comme New York, comme San Francisco, qui sont dans des bulles immobilières terribles, où il est extrêmement difficile pour les pauvres de se loger, ça n'existe pas à Denver, ça n'existe pas à Houston, avec les mêmes taux d'intérêt, avec la différence, c'est la réglementation foncière. Donc il faut donner beaucoup plus de liberté de construction, de densification. Mais je ne parle pas là du logement insalubre, parce que j'ai entendu ce que vous disiez sur le logement insalubre. Mais sur le fait de densifier l'offre, il faut laisser plus de liberté.
Mais ça aussi, je pense qu'il faut une révolution dans la tête des dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est la France, elle est diverse et variée dans ses situations économiques, foncières et géographiques. Le problème aujourd'hui du mal logement, il est dans certains territoires, parce qu'il n'y a même pas de marché du logement. Et je vous rappelle que les endroits où le logement est le plus cher, c'est là où on a le moins de ronds-points qui sont pris en otage par les manifestants.
Quelques mots encore après le message de notre auditeur Michel tout à l'heure. Voici François, mais c'est François Pouponi, le député Nouvelle Gauche, qui nous écrit, Razia m'a dit...
Je crois qu'il a quitté le groupe Nouvelle Gauche.
Oui, il n'est plus. Bon, peu
je reste informé.
Il nous dit, un maire peut faire fermer un commerce qui n'est pas aux normes de sécurité, voilà ce que dit François Pouponi, et ne peut pas faire fermer un immeuble insalubre, chercher l'erreur. Ça fait partie des anomalies du système d'aujourd'hui. Dernière chose là-dessus.
Il a en partie raison, parce que on peut déclarer l'insalubrité, ensuite il faut faire reconnaître le péril, ensuite on peut sécuriser, mais il a tout à fait raison. Mais je pense que c'est pas
ce qui s'était passé rue d'Aubagne à Marseille.
Mais je crois que c'est, franchement, je pense qu'il y a un problème d'intervention. C'est pas, on peut pas demander à un maire de je pense que si on considère que là c'est la vie des gens qui sont, enfin voilà, après il y a le permis de louer, ça on peut à la limite laisser les collectivités gérer ça, mais je pense qu'il faudrait remonter d'un cran et ne pas éparpiller la capacité de sanction.
En tous les cas, vous avez ce soir insufflé une note d'espoir,
hein. Oui, je pense qu'on peut y arriver, parce
mieux, on peut y arriver.
Alors, grâce à vous aussi, hein, je veux dire, la journée que vous avez faite permet aussi de prendre conscience.
Et voilà, c'est donc la noblesse du service public. Allez, nous allons aborder désormais cette bataille des cagnottes. Je vous rappelle donc que celle qui concerne l'ancien boxeur Christophe Détinger Cagnotte, qui a été close par la plateforme concernée, Letchi, avait recueilli 117 000 euros. Et l'autre cagnotte, destinée aux forces de l'ordre, lancée par Renaud Muselier, ce soir a atteint les 196 000 euros. Il y en a même une troisième par Bruno Pomard, un pilier du RAID qui est monté à 22 000 euros. Donc, toutes ces cagnottes qui semblent s'opposer de principe, masquent peut-être un sujet plus profond, plus grave, une forme d'opposition aujourd'hui entre une partie de la population, on l'a vu, et les forces de l'ordre dans ce pays. Il ne faut pas y toucher, a estimé leur avocat, Maître Thibault de Montbrial.
Ce que les gendarmes attendent de ce procès, c'est que la justice vienne mettre une ligne rouge, vienne mettre le holà et vienne rappeler non seulement qu'on ne touche pas aux policiers et aux gendarmes, mais que lorsque l'on commet des violences qui sont à la limite de l'intention homicide, la riposte judiciaire soit foudroyante. Ce sont des violences qui sont déjà par nature inadmissibles contre les forces de sécurité intérieure, mais qui, compte tenu du contexte explosif, du contexte émeutier dans lequel se déroulent de plus en plus les violences en marge des manifestations des Gilets jaunes, sont complètement irresponsables.
Voilà donc Maître Thibault de Montbrial. Je rappelle, hein, Audrey Goutard, qu'on ne sait toujours pas à l'heure qu'il est si ce procès aura lieu ce soir, le procès de Christophe Détinger, cet ancien boxeur. Audrey, ce match des cagnottes, je disais tout à l'heure, n'a rien de cocasse. Il faut une réconciliation aujourd'hui entre la population, oui, du moins une partie d'entre elles, et les forces de l'ordre.
On voit ce à quoi les gens sont aujourd'hui exposés, en tout cas en termes de réflexion. C'est-à-dire qu'on sent vraiment une France divisée en deux. D'un côté, vous avez ce boxeur. De l'autre côté, vous avez ce policier toulousain qui boxe aussi des manifestants et qui est mis en cause. En tout cas, il est accusé d'avoir boxé des manifestants et mis en cause. D'un côté, vous avez la cagnotte du boxeur. De l'autre côté, vous avez, je dirais, même le salaire de Chantal Jouanneau. C'est-à-dire que c'est vraiment les Français, lorsqu'ils doivent se demander la question. Lorsqu'ils doivent. Mais,
Jean-Sébastien
Ferjou. C'est des histoires.
On lance la cagnotte.
Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui choque les uns et les autres. Oui. C'est-à-dire que vous vous placez dans un camp ou dans un autre. Et c'est compliqué parce que vous vous dites, ah oui, c'est choquant ce boxeur qui boxe, mais vous vous dites aussi, mais en même temps, c'est choquant ce policier qui boxe. Vous voyez, c'est.
En même temps.
Et en même temps. Voilà, les Français sont aujourd'hui face à un et en même temps
mais de non, la violence. Malheureusement, de la violence d'une société.
Jean-Sébastien Ferjou, je rappelle le propos tenu sur un tweet du SCPN. C'était lundi soir, le syndicat des commissaires de la police nationale qui a écrit le dernier mot à la crise doit être politique issu. Du dialogue, de la concertation, ce n'est pas un match police-gilets jaunes, c'est un moyen de responsabiliser les décideurs politiques aujourd'hui.
Ah mais bien sûr, je pense que les commissaires avaient de ce point de vue-là parfaitement raison, et je suis d'accord avec ce que disait Audrey aussi, c'est-à-dire que c'est effrayant de voir que les gens n'arrivent plus à comprendre le point de vue de l'autre. Et comprendre, essayer de le comprendre ne veut certainement pas dire le justifier, parce que évidemment, personne, ou très peu de gens, ou peut-être quelques-uns à la France insoumise, mais pas tellement ailleurs, ont sont capables de défendre l'usage, le principe de l'usage de la violence. Évidemment qu'on ne tape pas les policiers et encore moins un homme à terre. Maintenant, je ne crois pas que les gilets jaunes ou les gens qui ont donné de l'argent dans la cagnotte du boxeur l'ont fait parce qu'ils soutenaient la violence. Ils l'ont fait parce qu'ils voyaient l'injustice. L'injustice, ils ont regardé la vidéo du boxeur en question, l'injustice dont il estime, lui, être victime. Et ils ont l'impression d'être victime d'une forme de violence symbolique. Alors, ça ne justifie encore une fois certainement pas la violence, mais il faut quand même le comprendre, sinon on est dans un engrenage, comme j'en parlais tout à l'heure, véritablement de guerre civile. Il faut qu'on arrive à regarder le point de vue de l'autre. Je comprends aussi, évidemment, ça va sans dire, l'exaspération des forces de police qui vivent des choses très difficiles, et il faut quand même signaler que dans les rangs des forces de police, il y a des gens qui commencent à en avoir assez des ordres, parce qu'on leur a donné des ordres de répression extrêmement sévères. Il faut aussi le rappeler, il y a eu 2000 blessés.
Il y a une forme d'usure aussi au fil des semaines.
Mais ça n'est pas que l'usure, Jean-François. Il y a une contestation, et dans la hiérarchie, et dans les rangs, des ordres qui ont été donnés. La répression a été extrêmement violente, bien plus violente que vis-à-vis de gens qui sont probablement beaucoup plus dangereux. Il faut aussi le prendre en compte dans la compréhension du système. Maintenant, ça ne justifie jamais la violence.
Oui, je rappelle, Saveria Rojec, que l'avocate de Christophe Détinger, c'est donc maître Laurence Léger, a souhaité que ce procès ne prenne pas un tour politique. Quelques mots là-dessus.
C'est ce qu'a dit Edouard Philippe également tout à l'heure. Il a rappelé que les faits sont graves. Moi, ce que je trouve choquant, je suis d'accord avec vous que cette histoire de Kenyok, elle incarne effectivement une partie des fractures de la société actuelle, de la crise actuelle. En revanche, ce que je trouve très choquant, effectivement, c'est d'entendre un Jean-Luc Mélenchon qui condamne la fermeture de cette cagnotte. On a le sentiment que ces cagnottes, effectivement, elles sont aujourd'hui devenues une sorte de défouloir. Elles accompagnent le climat délétère. Elles accompagnent la défiance envers la classe politique, envers les dirigeants, envers les élus, envers les médias également.
La légitimité de l'ordre établi.
Une cagnotte pour que Marlène Schiappa se taise. Il y a encore quelques heures, cette cagnotte, elle était encore active.
Allez, voilà où on en est. Mais d'accord, mais il y avait vraiment des gens qui donnaient de l'argent.
Oui, il y avait un peu d'argent, mais voilà où on en est.
20h51 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Deux militaires manquent toujours à l'appel ce soir dans le Jura. Ils étaient à bord d'un Mirage 2000 disparu des radars ce mercredi en milieu de journée. Des débris de l'appareil ont été retrouvés sur les hauteurs de la commune de Mignot-Villard. Nous serons prêts, assure le Premier ministre, à 6 jours du lancement du grand débat national. Ce coup d'envoi sera donné mardi prochain dans l'heure. Le chef de l'État sera présent pour les modalités de cette grande consultation. Il faudra attendre lundi prochain. Nouveau coup dur pour la Première ministre britannique Theresa May. Les députés ont voté aujourd'hui un amendement obligeant le gouvernement à présenter sous 3 jours un plan B en cas de rejet du texte sur le Brexit par les élus de la Chambre des communes. Le vote définitif sur la sortie de l'UE de la Grande-Bretagne est prévu le 15 janvier. En football, 2 matchs des quarts de finale de la Coupe de la Ligue à suivre ce soir dans une dizaine de minutes. PSG Guingamp et Bordeaux-Le Havre.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Y a-t-il aujourd'hui dans ce pays une forme d'incompréhension, voire de fracture sociale, même sociétale? Écoutez ce qu'a dit Alain Juppé lors de ses vœux aujourd'hui à la presse à Bordeaux. Il est revenu sur l'incendie volontaire qui a visé la sous-préfecture de l'Espart en Gironde. Le maire de Bordeaux qui semble faire le distinguo entre ceux qui expriment leur souffrance et ceux qui cassent.
Il y a aujourd'hui des personnes en souffrance qui ont envie de s'exprimer, il faut les écouter, elles ont le droit de manifester. En revanche, les voleurs, les pillards, les vandales, comme on en a vu samedi après samedi dans les rues de Bordeaux, n'ont pas leur place dans l'espace public, ni ailleurs d'ailleurs, et donc le gouvernement doit faire respecter l'ordre républicain.
Razia Amadi, on entend le discours du maire de Bordeaux, Bordeaux qui a été très exposé lors des dernières manifestations du samedi, les fameux actes des gilets jaunes. La société française est durablement en colère, selon vous?
Je crois déjà qu'il a raison, et je pense que c'est par ce type de précaution aussi dans le débat que on fait en sorte de rester un peu plus tous ensemble. Gilets jaunes, ils sont pas tous là à taper sur des policiers ou à casser des vitrines. Alors, grande majorité, c'est une revendication légitime, etc. Bon, deuxième chose, on a un phénomène de désocialisation, voire d'asocialisation, qui est commun à toutes les sociétés modernes occidentales. C'est-à-dire qu'il y a une perte de sens. Il y a une redistribution, même si en France, vous savez, par exemple, l'égalité de revenus, elle va de 1 à 20. Après redistribution, elle est de 1 à 5. C'est-à-dire qu'on est quand même un pays très redistributif. Mais en même temps, on ne sait plus sur quoi se fonde le contrat, sur quoi se fondent les termes de la contribution et de l'adhésion au contrat social et républicain. Quelle liberté, quel droit, pas de droit sans devoir, pas de devoir sans droit. Je n'invente rien ici, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de remettre le ballon au sol. Où on va, comment on y va ensemble, pourquoi, comment. Je pense qu'il y a des choses qui nous ont fait très mal, vous en avez parlé beaucoup sur ce plateau, c'est-à-dire on dit les forces à la démocratie, quand on vote quelque chose au niveau du référendum européen, finalement on dit on s'assoit dessus, je pense que ça a laissé des traces. Mais de l'autre façon, aussi attention aux dirigeants politiques, j'entendais tout à l'heure sur la cagnotte. La cagnotte, 170 000 euros à peu près, dont moyen 17 euros. Donc ça veut dire 10 000 personnes sur 65 millions. Donc il y a 10 000 personnes qui donnent en moyenne 17 000 euros. Bon, est-ce que de là, on peut tirer la conclusion que la France est fracturée, etc. Il y a des lignes de fracture, il y a des problèmes, mais juridiquement, rien ne justifie qu'on interdise cette cagnotte.
Alors, non, aujourd'hui, puisque c'est pour payer ses frais d'avocat. Audrey Goutard, 1995,
moralement,
Jacques Chirac, 95, évoquait la fracture sociale. Il y avait la France intégrée et celle des exclus. Est-ce qu'en 2019, aujourd'hui, cette fracture est toujours là, elle est toujours présente? Est-ce qu'elle ne devient pas sociétale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, désormais, ceux qui manifestent contestent le principe même des institutions parce qu'elles ne correspondent plus au quotidien des Français.
C'est une question qu'on peut se poser effectivement, et de toute façon en 95 les interrogations étaient déjà les mêmes sur effectivement la forme de notre démocratie, cette partie de la société qui se sentait invisible. Ça n'est pas nouveau, on l'a vu même dans les grandes révoltes des banlieues dans les années 2000, on l'entend depuis longtemps. Alors là elle s'exprime. Les derniers sondages montraient que plus de 80% des Français étaient contre la violence, même s'ils la comprenaient. Parce que pourquoi? Il faut s'interroger aussi sur la façon dont les politiques ont réagi par rapport à la violence. C'est-à-dire que les gens ont eu l'impression, nous on l'a vu dans nos reportages, les gens ont eu l'impression d'être entendus à partir du moment où il y avait des phénomènes de violence. Qu'avant on les entendait pas, on les écoutait pas. Il a fallu, disent-ils, qu'ils désactent de violence pour qu'effectivement ils soient entendus. Ça me rappelle ces phénomènes un peu désespérés d'ouvriers, souvenez-vous, dans des entreprises qui polluaient une rivière, qui jetaient des barils d'essence dans les rivières pour pouvoir être entendus par le pouvoir local. Donc ils étaient prêts à polluer leur environnement, leur propre environnement, pour pouvoir être entendus. Eh bien, nous sommes un peu dans cette situation-là. Et les sondages montrent ça.
Savaria Rejec, le grand débat, ce qui se produit aujourd'hui, peut déboucher sur une vraie révision constitutionnelle qui irait au-delà de celle qui était évoquée il y a presque un an maintenant.
Ce qui a été annoncé, en tout cas tout à l'heure, pour donner de l'information, effectivement, et pour la relayer, c'est que la fameuse réforme des institutions, elle est reportée, sine die, elle a été reportée une première fois.
Elle va se nourrir du débat ?
On l'espère, mais elle a été reportée après l'affaire Benalla, elle est reportée maintenant du fait de la crise des Gilets jaunes, elle sera reportée sans doute après les élections européennes. Voilà, est-ce que ce grand débat ne va pas être un grand défouloir vis-à-vis des institutions ? On entend parler de suppression du Sénat, on entend parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, espérons qu'il sortira des choses un peu plus concrètes de ce débat.
Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes optimiste tout de même ce soir, la situation est un petit peu aujourd'hui en panne dans ce pays ?
Non, je ne suis pas optimiste parce que je pense que la légitimité de ce gouvernement, même s'il a la légalité, à un moment, il faut avoir quand même le courage de regarder les choses en face. Sa légitimité politique est vraiment mise à mal. Maintenant, la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons, c'est que personne d'autre ne paraît capable d'en avoir une. D'accord. Et que s'il y avait une élection demain, je ne pense pas qu'il y aurait une majorité particulière à la place. Et peut-être même Emmanuel Macron serait-il réélu ou obtiendrait-il une majorité relative à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand on entend, vous parliez de 1995, j'écoutais les vœux d'Alain Juppé aujourd'hui, quand il dit « il n'y a pas d'alternative, on ne peut que continuer à faire la même chose », c'est une sorte de publicité vivante pour la révolution, parce que quand vous dites que dans un système, on ne peut pas changer de choix politique, on peut toujours, on peut les contester, on peut les trouver mauvais, mais on peut toujours faire d'autres choix politiques. Et donc si le gouvernement devait suivre cette ligne-là, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a deux lignes, eh ben oui, ils vont continuer à attiser les braises jusqu'à la révolution.
La une d'Atlantico.
Mais précisément, ça revient sur ces questions-là.
Audrey Goutard, l'instant T sur France Info ce week-end.
Avec... Eh bien, Christelle Delarue, qui est une féministe, une publicitaire, qui m'explique pourquoi on met encore des filles à poil pour vendre des voitures.
Super, allez, merci à vous. Razia Madi, merci.
Oui, je vous envoie sur News Tank ce soir, une tribune, l'expérimentation territoriale, Patrick Bouchain, grand architecte, et Sophie Léron.
Et merci également à Savaria Rejec, il est temps de conclure. Je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonne soirée.